Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Touchdown Actu, émission preview aujourd'hui consacrée au final de conférence. Les Chiefs peuvent-ils viser un troisième Super Bowl consécutif qui sera le nouveau représentant de la NFC West en finale nationale? Quelles sont les chances des Bengals et des Niners loin de leur base? Toutes ces questions qu'on se posera avec mon camarade du jour, monsieur Victor Roulier. Salut Victor.
Et salut Grégory, salut à tous. Très salut. Heureux de vous retrouver.
Ben oui. Hein,
Je n'en doute pas que c'est partagé, puisque tu as dit sur notre chat interne que c'était une punition hein, d'être avec moi. Donc, je ne doute pas que ton bonheur est immense.
Ah bah, surtout quand tu m'accueilles en me vouvoyant, ça me fait encore plus bizarre. Mais non, c'est très heureux en tout cas de te retrouver pour ce format. Alors, inhabituel pour moi, mais que tu ne découvres pas loin de là, hein, puisque cette saison, tu as un peu été monsieur preview avec Alain notamment. Donc voilà, puis ça nous chauffe un petit peu pour les preview draft. Donc c'est pas plus mal qu'ils vont s'accélérer, bien entendu, au cours des semaines et des mois à venir. Programme largement consacré aux playoffs, je l'ai donc dit, Victor, mais pas que. On fera un bilan d'étape dans la chronique un petit peu autre. Il n'y aura pas forcément de débat, mais une grosse chronique news concernant un bilan d'étape sur les équipes à la recherche d'un nouveau general manager ou d'un nouvel head coach. Et il y a eu du mouvement d'ailleurs chez les GM ces dernières heures, tout en abordant, bien entendu, la bombe annoncé en début de semaine du côté de la Nouvelle-Orléans avec la page Sean Payton qui est sur le point de se tourner. Les présentations étant faites, on passe tout de suite aux finales de conférence avec notamment la finale de conférence américaine entre les Kansas City Chiefs et les Cincinnati Bengals. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir! We're gonna work on three! One, two, three, work! Ce sera donc au programme ce dimanche dès 21h heure française, ce match de conférence américaine donc entre les Kansas City Chiefs et les Cincinnati Bengals. On va le dire tout de suite, Victor, on a l'avantage dans ces finales de conférence d'avoir des airs de déjà-vu, c'est-à-dire que ce sont à chaque fois deux équipes qui se sont déjà affrontées et ce n'est pas toujours le favori qui a eu le dessus, avec notamment ce Kansas City-Cincinnati, deux équipes qui s'étaient affrontées en 17e semaine de saison régulière du côté de l'Ohio, avec une victoire à la clé donc pour les Bengals, victoire 34-31 dans un match que les Chiefs ont longtemps dominé, en tout cas mené au score, j'entends, et une victoire au final 34-31. Honneur peut-être, si on peut parler ainsi, aux Chiefs. Enfin, on va dire qu'on aborde notamment ce match sous le prisme de l'attaque. Les Chiefs ayant marqué le plus de points parmi les équipes qualifiées le week-end dernier. Entre ce match-là et celui entre les Niners et les Rams, est-ce qu'on doit s'attendre à un match plus explosif du côté du Missouri ce week-end?
Ah, théoriquement, oui. Après, c'est vrai que le dernier Rams-Niners avait été explosif, mais bon, on y reviendra. Mais oui, je pense qu'on est sur un match où, sur le papier, après, on ne sait jamais, les Packers ont marqué 10 points, hein, mais sur le papier, en tout cas, c'est une attaque qui doit dominer la défense en face. Après, à quel niveau les attaques vont dominer la défense en face, c'est un peu toute la question. Parce que le favori, c'est Kansas City. on va pas se mentir, il y a des armes qui sont connues, puisque c'est à peu près les mêmes depuis 3 ans. Donc, il y a Tyreek Hill, il y a Mahomes, il y a Kelce. Attention quand même, Mahomes a réussi à diversifier ses cibles ces dernières semaines. Donc, il n'y a pas que ces joueurs-là. On a vu, par exemple, un Pringle en red zone qui était très bon. On a vu un McKinnon dans le backfield qui, notamment en réception, était pour le coup vraiment décisif. Donc, globalement, cette attaque, on la connaît. Sa faiblesse ou son facteur X, c'est la ligne. On l'a vu l'année dernière, hein, quand la ligne s'est écroulée, ils ont perdu le titre. Ils ont la chance cette année d'avoir quand même beaucoup plus de stabilité.
Oui, moins de blessures, très clairement, notamment sur le poste de tackle.
Exactement. Brown fait une bonne saison. Tony fait une bonne saison. Creed Humphrey est, comme attendu, le meilleur centre parmi les rookies. Et franchement, on est sur peut-être le meilleur centre rookie depuis vraiment des années. Moi, je trouve que c'est incroyable qu'on ne parle pas de lui dans la discussion de rookie d'année. Donc, voilà, globalement, on a une attaque qui doit dérouler parce qu'en face, les Bengals, c'est pas ridicule en défense. Attention, hein. Notamment le front seven qui peut poser des problèmes à cette ligne. On l'a vu, Hendrickson est un vrai facteur X. DJ Reader et même les linebackers commencent vraiment à atteindre leur potentiel. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Je vais aller dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'inquiète comme match-up, si on parle de l'attaque de Kansas City, c'est que pour défendre Tyreek Hill, Pringle, Mecole Hardman et compagnie, on a Chidobe Awuzie et Eli Apple.
Et alors, ils risquent pas une mauvaise campagne tous les deux. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on a toujours cette incertitude. Je te rejoins là-dessus. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que si on commence à aborder un petit peu le sujet, les Bengals ont cet avantage, si on prend le profil des 4 équipes qualifiées, ils ont cet avantage non négligeable du plateau, c'est-à-dire qu'ils ont globalement la meilleure marge de turnover pendant ces playoffs. Ils sont à plus 4, en l'occurrence, très très loin devant le deuxième. Alors, je ne sais plus, mais je crois même que le deuxième est à 0 globalement ou à plus 1. Mais il y a quand même une marge absolument notable. Et je te rejoins, c'est sûr que, et c'est ce que je soulignais un petit peu en début de semaine, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une équipe avec beaucoup de vedettes, mais c'est une équipe qui arrive malgré tout à provoquer des pertes de balles, notamment ces 3 interceptions de Ryan Tannehill. C'est un scénario qui peut être un peu plus difficile peut-être à mettre en place face à Kansas City, surtout qu'on n'est pas forcément sur du jeu très profond du côté des Chiefs. On va être vraiment plus sur de la menace intermédiaire et du yards après réception, où il va falloir qu'au niveau de la poursuite, les défenseurs des Bengals soient vraiment au rendez-vous.
Oui, c'est ça. C'est Kansas City, ils faisaient beaucoup de cadeaux en début de saison à tout le monde. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et clairement, moi, Eli Apple, le problème, c'est que c'est typiquement Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Eli Apple. Sur un match, parfois, tu te dis vraiment super joueur. Et sur un autre match, il va se prendre 200 yards dans un carton. Donc oui, il y a des armes. Il y a des stars malgré tout. Jesse Bates, notamment.
Bah, c'est d'autant plus important quand tu affrontes un Travis Kelce, je te rejoins.
Voilà. Donc Jesse Bates et Von Bell. Mm-hmm. Bon, c'est rassurant parce qu'on se dit Kelce, normalement, il ne doit pas pouvoir faire beaucoup de terrain après avoir fait la réception quand tu as deux joueurs comme ça qui couvrent l'arrière du terrain. Mais ça reste quand même un match-up qui va être difficile à arrêter, quoi. C'est Kelce, là, pour l'instant, il est en feu dans ses playoffs. Il a quelque chose peut-être à prouver après son Super Bowl assez catastrophique de l'année dernière. Donc, je trouve que vraiment, on a une équipe revancharde de Kansas City. L'objectif est clair. C'est on veut effacer l'humiliation subie il y a un an. Et ça commence à ressembler à l'attaque inarrêtable qu'on a pu voir notamment il y a 2 ans.
Ouais, tout à fait. Alors, pour continuer un petit peu sur cette donnée de comment Kansas City peut attaquer Cincinnati et à l'inverse, comment Cincinnati doit s'adapter, c'est vrai que je n'ai pas la sensation que ce soit exactement le même scénario que ce que la défense des Bengals a affronté contre Tennessee et Las Vegas, dans le sens où on sera beaucoup plus, et t'en parlais notamment avec McKinnon, il y a Edward Zeller qui est revenu également de blessure la semaine passée. On a cette faculté aussi à avoir des running backs beaucoup plus à même à sortir du backfield. Et ça peut en tout cas être une donnée à prendre en compte du côté de Cincinnati. Ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les receveurs en règle générale, notamment forcément un Tyreek Hill qui a démontré par son touchdown en fin de rencontre contre Buffalo qu'il fallait pas grand chose pour réussir à faire la différence dans les petits espaces. Très clairement, ils sont capables de sortir beaucoup de running qui peuvent faire la différence en sortie de backfield. Et c'est là-dessus que Cincinnati vraiment devra être au rendez-vous. notamment avec une bonne escouade de linebackers et surtout avec des safety vraiment assez habiles, assez vifs. Mais tu le disais, Jesse Bates, c'est un des meilleurs défenseurs très clairement de cette équipe, un des meilleurs à son poste très clairement selon moi. Donc c'est sûr que ça va forcément être une donnée à prendre en compte par rapport à ça.
Et moi, je rajouterais un dernier élément, un peu toujours dans le jeu au sol, mais Mahomes, c'est pas Tannehill. Si tu lui laisses des espaces…
Meilleur coureur de son équipe le week-end dernier, on le rappelle.
Si tu laisses des espaces, il va les faire, les 20 yards à pied. Et là, c'est là où les linebackers vont vraiment devoir être au niveau, c'est qu'il va falloir l'espionner, ou en tout cas, enfin, ça sera peut-être pas vraiment un spy comme tu peux avoir sur un Lamar Jackson, mais en tout cas, des joueurs vigilants pour éviter justement ce moment où Mahomes va faire des courses de 20, de 30 yards. Il en est capable. Il l'a montré, ne serait-ce que la semaine dernière. Donc, attention à cette donnée-là aussi. Tannehill était quand même très immobile, particulièrement, je trouve, la semaine dernière. C'est pas ce qu'ils vont affronter cette semaine.
Ouais, et puis si on insiste là-dessus et si on fait le parallèle un petit peu avec Tennessee, alors c'est moins marqué qu'en 2019, j'ai l'impression. On sait qu'en playoff, ou en tout cas, même quand Kansas City était dans une bonne passe il y a deux saisons de ça, il y avait des débuts de match qui étaient un petit peu, qui étaient un peu manqués, on va dire clairement, et où derrière, il fallait vraiment, vraiment cravacher. On a vu que Tennessee s'était mis un peu dans le trou dès le premier drive offensif avec cette interception rapide de Ryan Tannehill. Là aussi, même si Mahomes, sur le papier, apporte plus de garanties, ne serait-ce qu'en termes de mobilité, comme tu le disais tout à l'heure, que Tannehill, et a montré une capacité d'improvisation vraiment notable, il ne faudra pas se louper parce qu'on voit que derrière Cincinnati, ils sont capables aussi de verrouiller quand il y a besoin de le faire.
Ça, c'est sûr. Je ne pense pas que s'il y a, par exemple, au hasard, 24-0 au milieu du deuxième quart-temps, il y ait 28-24 à la mi-temps. Hein. Mm. Coco aux Texans, évidemment, ils s'en rappelleront. Mais c'est sûr qu'il y a une capacité. Et puis, on va y venir après à l'attaque des Bengals, mais il y a une capacité à manger l'horloge qui est, je pense, assez intéressante chez les Bengals. Et donc, en effet, s'ils prennent une avance suffisante, ils peuvent vraiment contrôler le match. Et ça va être important.
Okay. Une donnée importante également, hein, tant qu'on parle de Patrick Mahomes, forcément, il y a toujours ces chiffres qui donnent un petit peu le tournis. Mahomes en playoff à domicile, alors, c'est même pas forcément la peine de rajouter à domicile, parce qu'a priori, Patrick Mahomes n'a pas joué beaucoup de matchs de playoff à l'extérieur. Mais en tout cas, en playoff à domicile, Mahomes, c'est 7 victoires, 1 défaite, 23 touchdowns, 1 interception.
Ouais,
cette défaite, on s'en rappelle, c'est en prolongation en finale de conférence américaine contre les Pats en 2018, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Non, mais de toute façon, il est à 25 touchdowns, 5 interceptions en playoff dans l'histoire. Et si t'enlèves, les deux Super Bowls, il est à 23 touchdowns pour une interception. Parce que paradoxalement, il fait 4 interceptions sur 2 Super Bowls. Mais pour le coup, oui, il est inarrêtable. Globalement, inarrêtable en playoff. Et particulièrement dans un stade, quand même, quand on parle d'avantage à domicile, Arrowhead, c'est un vrai avantage à domicile. Hein,
oui.
Parce que c'est un public bruyant. Donc, souvent, les adversaires doivent faire des snap counts plutôt silencieux, des choses comme ça, parce que clairement, c'est pas une sinécure d'aller jouer là-bas.
Tout à fait. Un point intéressant également, enfin, si on part sur les facteurs X de ce côté-là du ballon, même si ça peut se rejoindre également au niveau de l'attaque et de la défense, mais ça me paraissait intéressant de le mettre en avant sur ce match-là. J'ai souvent été critique sur Zach Taylor au début de sa gestion. On a vu qu'il m'a donné tort au fur et à mesure, notamment d'un point de vue discipline. Les Bengals, c'était une des équipes qui était le moins pénalisée au sein de la ligue en saison régulière. Alors, c'est pas l'équipe qui prend le plus de mouchoirs en playoff, notamment parmi les 4 qualifiés en demi-finale, mais c'est l'équipe qui a pris le plus de yards de pénalité parmi les équipes qui figurent dans le dernier carré. Donc ça peut quand même être quelque chose de non négligeable, surtout quand tu joues contre Kansas City et quand tu sais qu'avec ce nombre de yards concédés, tu t'es retrouvé dans 2 matchs que tu as gagné de manière un peu couperée sur les tours précédents.
Oui, non, mais de toute façon, ils ne pourront pas jouer comme ils ont joué contre Tennessee. Hein. Enfin, faut être clair, offensivement comme défensivement. Et j'ai envie de dire, puisqu'on après, on parlera de l'attaque, mais donnée, mais qui est toujours un facteur X dans tous les matchs, mais ça va être particulièrement la red zone, c'est-à-dire la différence entre un field goal et un touchdown, c'est quand même non négligeable. Et dans ce match-là, à mon avis, marquer un field goal, ça sera considéré comme un mauvais drive.
C'est ça. On va venir du coup à cette attaque des Bengals pardon, contre la défense des Chiefs. Alors, c'est un match qui est plus équilibré qu'il n'y paraît, notamment, Victor, parce qu'on a affaire à deux équipes dont les duos de receveurs ont été extrêmement productifs. On a deux duos de receveurs de chaque côté avec plus de 1 000 yards à la réception cette saison. On a parlé de Tyreek Hill et Travis Kelce. C'est également vrai pour Ja'Marr Chase, forcément, avec cette énorme saison rookie qu'il a réalisée. Je crois d'ailleurs qu'il peut battre le record du nombre de yards à la réception pour un rookie depuis Torrey Holt. Donc, c'est pas tout à fait anodin cette saison qu'est en train de réaliser Ja'Marr Chase, mais ça, on le savait quand même depuis pas mal de temps. Et puis, on a également T. Higgins qui a franchi la barre des 1 000 yards avec notamment sa bonne deuxième partie de saison. Donc, grosse attaque. Forcément, le focus, alors je sais pas si c'est le facteur X principal, parce qu'il y en aura, il y en a beaucoup a priori sur ce match-là. Mais la clé, en tout cas, pour Cincinnati, pour rester en vie, ça va forcément être ce duo de choc, Joe Burrow, Ja'Marr Chase.
Oui, oui, oui. Et quand tu disais un duo de receveurs, j'ai presque envie de dire un trio. Parce que Boyd, cette année, est quand même plus que contributeur. Mm-hmm. Et peut-être même un quatuor, si on rajoute Uzoma, qui est un peu la surprise de la saison. Parce que, enfin, surprise.
Qui a été clutch, en tout cas, sur certains matchs, ouais.
On savait qu'il y avait du talent, mais alors cette année, il y a certains matchs qu'il a pris sur ses épaules, c'était assez impressionnant. Je pense que globalement, on va pas réinventer la roue. Contre cette défense de Kansas City, qui historiquement donne beaucoup de yards, il va falloir canarder dans les airs, ça c'est sûr. La défense de Kansas City, elle vit et meurt par le côté playmaker, turnover, etc., on le sait. Donc la clé, ça va être ça, ça va être… Pourquoi pas avoir un plan de jeu un peu similaire à Tennessee, c'est-à-dire pas forcément des très longues passes, mais ne pas hésiter à multiplier des passes courtes en misant sur des yards after catch, des yards après réception d'un Ja'Marr Chase, par exemple. Parce que si Ja'Marr Chase, il reçoit la balle et qu'il se retrouve face à Legarius Sneed et Thornhill, par exemple, il a la place de casser un ou deux plaquages et d'avancer. Donc, je pense qu'il va falloir varier les plans de jeu, mais sur le papier, les receveurs sont supérieurs aux defensive backs. Alors, sachant que Tyrann Mathieu est en protocole commotion, mais apparemment, cette année, les commotions, ça dure 2 jours quand t'es en playoff, alors que ça dure 10 jours en saison régulière, hein, c'est ça. Évidemment. Et le Covid a disparu aussi. mais voilà, je pense que même si Tyrann Mathieu est une légende, je pense qu'il n'est plus au niveau qu'on a pu connaître. Il reste correct, hein, mais il n'est plus au niveau qu'on a pu connaître. Et du coup, pour moi, les receveurs des Bengals doivent faire la différence. On est un peu sur un point de vue similaire à celui des Chiefs.
Bah alors, je vais me permettre la passerelle en l'occurrence, puisque forcément, on va parler de la ligne offensive des Bengals. Mais ce qui est intéressant cette saison, c'est que Joe Burrow est un des quarterbacks les plus productifs sur tout ce qui est lancé profond, notamment sur les passes de plus de 50 yards. Et on a vu, même parfois de manière un petit peu grossière le week-end dernier, Josh Allen vraiment mettre au supplice ce backfield défensif des Chiefs, que j'ai trouvé extrêmement naïf sur certaines séquences. Et on est toujours sur ce point de vue où on se dit, est-ce que Joe Burrow aura le temps de lancer avec la ligne qu'il a ? Mais en gros, j'ai l'impression qu'on va presque être dans un scénario ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que ça peut être, en caricaturant un peu, mais sur deux séquences de suite, on peut très bien avoir un sac décisif d'un côté et derrière un big play qui peut aboutir sur un touchdown. C'est presque sur ce genre de stratégie où Cincinnati peut faire la différence quand on voit en effet que le backfield défensif fait quand même un peu peine à voir sur certaines séquences de jeu du côté des Chiefs.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, en effet, Burrow, s'il a le temps, il arrivera à découper ses defensive backs. Le problème, c'est est-ce qu'il aura le temps ? C'est comme tu dis, c'est la question. Moi, ce qui m'inquiète, notamment, on l'a vu, hein, ils ont pris 9 sacs, si je dis pas de bêtises.
Ils prennent 9 sacs, ils ont concédé 55 sacs pendant la saison régulière. L'avantage presque pour eux, c'est que les Chiefs sont pas forcément l'équipe qui met le plus de pression. Généralement.
Alors, je sais pas parce que il y a quand même eu beaucoup de sacs à l'intérieur de la ligne contre Tennessee. Et on a quand même en face Jones et Reed. Donc, on a quand même un duo assez important. Donc, je te rejoins au sens où c'est peut-être pas les edges qui vont mettre plus la pression. Encore que Frank Clark et Ingram sur un match peuvent largement être décisifs. Hein. C'est évidemment pas la question. Je crois même que Frank Clark, j'ai vu qu'il était cinquième dans l'histoire en nombre de sacs en playoff. Donc comme quoi.
Il y a des stats un peu folles. J'en ai certaines sur les Niners aussi.
Ouais, non, mais il y a des stats comme ça qui surprennent. Mais en tout cas, Jones et Reed, il y a moyen de faire passer un très mauvais quart d'heure à la ligne intérieure offensive des Bengals. Donc, je pense que c'est là où la pression va arriver le plus souvent. Et pourquoi pas imaginer des schémas de jeu où Burrow volontairement sort de sa poche. Alors, c'est peut-être pas son jeu principal, mais le problème, c'est que les sacks sont la faute de la ligne offensive et du quarterback. Et je trouve que Burrow a été très naïf contre Tennessee. Il y a plusieurs sacks qu'il peut éviter s'il joue, on va dire, correctement là-dessus. Et du coup, est-ce que le mettre en mouvement, c'est pas aussi le protéger? Ça dépendra du schéma de jeu, ça dépendra de comment c'est organisé, mais j'ai peur qu'il souffre et que rapidement il se retrouve encerclé au milieu de la ligne sans pouvoir rien faire, quand bien même Jonah Williams ferait un gros boulot en tant que tackle gauche.
Ouais, c'est ça. Parce qu'a priori, c'est plus à droite que
le. C'est plus à droite que le problème vient, oui.
Adeniji et Prince, qui n'ont pas une expérience en plus totalement dingue, c'est là en effet où je te rejoins. Ça peut occasionner de la pression, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que du côté de Tennessee, c'est plus un Jeffrey Simmons, à mon sens, qui a fait beaucoup, beaucoup de mal sur l'intérieur. Et voilà, avoir peut-être.
Et Jones peut largement faire.
Meilleur défenseur de l'autre côté, c'est un defensive tackle pour Cincinnati. Donc, c'est peut-être là où la problématique va se situer en l'occurrence. Du coup, quelques chiffres intéressants quand même. Joe Burrow qui peut devenir le premier quarterback à atteindre le Super Bowl à l'issue de sa deuxième saison depuis Russell Wilson. Pour contextualiser. Eh oui, avec un impact plus important quand même, parce que tout l'amour et tout le respect que j'ai pour Russell Wilson, on rappelle que c'était Marshall Lynch qui portait vraiment l'attaque sur ses épaules. D'ailleurs, jeu au sol très important du côté de Cincinnati. Joe Mixon qui fait une bonne saison par ailleurs. Au niveau du jeu au sol à proprement parler, n'a pas eu un impact monstre pendant ses playoffs. On a vu qu'il était capable d'apporter lui aussi en sortie de backfield. Ça peut conditionner. En tout cas, il y a une bonne protection du ballon, ce qui n'est pas forcément le cas du côté de Kansas City. Et là, si on en revient à la bataille des turnovers, ça peut être un point intéressant pour les Bengals éventuellement d'avoir un running back à la fois performant en sortie de backfield et qui ne fait pas trop de bêtises quand on lui donne des portées.
Et pour moi, Joe Mixon, c'est le facteur X de cette attaque. Parce que ce n'est pas le joueur le plus constant qu'on puisse avoir, mais on en a vu des Joe Mixon games, des matchs où il est intouchable et où il fait 150 yards et 3 touchdowns. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense vraiment que Mixon, en tout cas, si Cincinnati veut gagner ce match, il va falloir répondre coup pour coup en attaque et contrôler l'horloge. Et dans le côté contrôle d'horloge, le jeu au sol est très important. Et donc Mixon, je pense qu'il va être fondamental et il faudra vraiment qu'il soit à 200%. Il peut être le facteur qui permet à Cincinnati de faire la différence. Parce que pour le coup, il est incontestablement le meilleur running back de ce match.
On est d'accord là-dessus. Si on s'intéresse maintenant à tout ce qui est équipe spéciale, notamment, ou on va appeler ça intangible, entre guillemets, enfin, tout simplement, par exemple, le jeu au pied, est-ce que tu donnes un ascendant plus à une équipe qu'à une autre?
Déjà, j'ai envie de te dire que on a deux super kickers. Mm-hmm. On a Harrison Butker. Bon, quand on a loupé un la semaine dernière, certes, mais qui reste un joueur super
top. Oui, qui peut taper des coups de pied de n'importe où quand même.
Et on a quand même McPherson, qui est un phénomène, hein, qu'on le veuille ou non. Comment dirais-je, sans être vulgaire, il en a, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est un rookie. Et quand il s'agit, d'ailleurs, je crois qu'il tape le field goal de la gagne en semaine 17 contre les Chiefs. Il tape le field goal de la gagne contre Tennessee. Apparemment, il aurait dit sur la sideline juste avant de taper, on va en finale de conf. Donc, il a l'air clairement confiant. Et c'est un joueur qui est assez impressionnant de sang-froid. Il me rappelle un peu des joueurs comme Vinatieri ou quoi, où tu as l'impression que, semaine 1, Super Bowl, je ne vois pas la différence. Quoi. Donc, c'est assez impressionnant.
Donc, avantage plutôt Cincinnati pour toi ou pas spécialement? Ou ça se vaut, hein, on n'est pas obligé de prendre forcément
parti pour l'un ou pour l'autre des côtés. Je dirais que ça se vaut. Je pense pas que les punters vont faire une grosse différence dans ce match. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, j'imagine plutôt un match où il y a des points. Donc voilà, après, je pense que le meilleur punter est du côté de Cincinnati. Donc, allez, s'il faut se mouiller, je dirais Cincinnati. Mais ces deux gros kickers, et normalement, les kickers ne devraient pas décider du sort du match.
Bah écoute, on verra ça. En tout cas, avant de donner le pronostic, juste quelques petits chiffres intéressants. Andy Reid, pour information, qui est le premier coach de l'histoire à atteindre 4 finales de conférence consécutives avec 2 équipes différentes. T'es bien placé pour le savoir, parce que la première fois, c'était avec les Eagles, donc entre 2001 et 2004, avec un Super Bowl à la clé lors de la dernière saison. Et donc, on y en est à 4 finales de suite avec les Chiefs. Il y a d'autres coachs qui ont fait au moins 4 finales de conférence consécutives, mais en l'occurrence avec la même équipe. Il y avait Bill Belichick, Madden, Marv Levy, John Madden, ouais, c'est jamais doute sur le prénom. Bill Belichick, John Madden, Marv Levy, donc ancien head coach de Buffalo, et Tom Landry, ancien head coach de Dallas. Et puis les Chiefs également peuvent atteindre un troisième Super Bowl de suite, je l'ai dit tout à l'heure. C'est arrivé à 3 autres équipes NFL dans l'histoire. Petite trivia, est-ce que tu sais lesquelles?
Les Steelers des années 70?
Non, ils sont pas dedans. C'est que des équipes de conférence américaine, mais pas les Steelers.
Ils font 2 et 2, du coup, parce qu'ils en gagnent 4, mais ils doivent faire 2 et 2. Les Bills, ils en jouent 4 de suite.
De Marv Levy, voilà.
Donc ça, c'est sûr. Tu m'as dit que les Broncos?
Non, pas les Broncos.
Non, ils font 2 aussi. Les Riders dans les années 70, éventuellement?
Non plus. Tu vas chercher bien loin.
Je vais chercher trop loin, c'est ça que tu es en train de me dire.
Tu es en train de chercher trop loin.
Je suis en train de chercher trop loin. Tu m'as dit de conférence américaine.
Oui.
Patriots.
Bah, les Patriots, tout à fait.
16, 17, 18, ouais. Donc, ça fait 2, c'est ça?
Ça fait 2. Et la troisième, si tu veux, je te la donne, la troisième.
Ah non, vas-y, donne-moi un indice. Moi, j'aime jouer.
Le problème, c'est que si je te donne un indice, tu vas trouver tout de suite. Mais non, c'est l'équipe, la troisième équipe, c'est une équipe dont tout le monde se rappelle. Et pour un fait bien particulier.
Donc, tout le monde se rappelle pour un fait bien particulier. Ah, c'est moche. Comment je peux louper ça?
L'indice, c'est le chiffre 0.
Parce qu'ils en gagnent 0?
Parle d'équipe qui ont fait 3 Super Bowls de suite, monsieur. Oui.
Bah, les Bills, ils en font 4 d'affilée, ils en gagnent 0, monsieur.
Oui, bah justement, pense à
les Dolphins?
Les Dolphins, tout à fait.
Parce parce qu'ils sont invaincus en 72.
Voilà, Super Bowl 6 perdu contre Dallas et ils gagnent le Super Bowl 7 en terminant la saison invaincu et le Super Bowl 8 respectivement contre Minnesota et Washington.
C'est vrai.
Donc voilà, c'était pour le petit.
Donc que des équipes d'AFC Est.
C'est l'indice que je voulais te donner, mais du coup, c'était un petit peu. Ouais. Parce que sans faire injure à nos grands camarades des Jets,
ils aimeraient bien avoir loué 3 Super Bowl.
Voilà, on aurait un petit peu galéré. Donc voilà, on en vient peut-être au pronostic du coup de ce Kansas City Chiefs Cincinnati Bengals. On l'a dit, c'est peut-être pas forcément aussi à sens unique que ce qu'on pourrait s'imaginer sur le papier, en tout cas, même si les Chiefs ont l'expérience que n'ont pas encore les Bengals. Est-ce que ça suffit à modifier ton point de vue et ton pronostic? Vers qui vont tes faveurs?
Eh ben, je vais jouer les Bengals, mais pour des raisons purement stratégiques. Voilà. Parce qu'en fait, je suis actuellement deuxième et j'ai 4 points de retard sur Raphaël. Donc, si je veux revenir, il faut malheureusement que je joue contre lui. Donc, évidemment, je pense que les Chiefs sont favoris. Et s'il n'y avait pas le côté stratégique, j'aurais misé Kansas City. Mais bon, à un moment, on ne joue pas pour la seconde place, hein, on joue pour la première. Donc pour le coup, je joue l'inverse de Raphaël. Mais je serais très surpris quand même que les Bengals viennent l'arracher à Arrowhead.
C'est tout à ton honneur. Bon, d'un point de vue moins stratégique, je vais y aller quand même sur Kansas City. Il y a beaucoup de facteurs qui font en effet que Cincinnati est capable, en tout cas, ne serait-ce défensivement, de plier sans rompre. On a vu que la défense de Buffalo, qui était quand même hyper impliquée, hyper intense sur certaines séquences de jeu, ils en ont quand même pris 42. Donc, malgré tout, on ne se rend peut-être pas bien compte, hein, encore que. C'est difficile de tenir sur la distance une telle armada qui joue autant sur la vitesse. Et malgré tout, je vois le fait que Cincinnati a gagné 2 matchs, notamment grâce à la défense, notamment sur des rencontres un peu étriquées en termes de points. Et je me dis que si Cincinnati doit suivre Kansas City dans un festival offensif, ce qui pour moi peut être le cas, j'ai peur pour eux qu'ils aient du mal à tenir la distance. Donc voilà, tant mieux pour Cincinnati si je me trompe, mais j'irai sur les Chiefs en l'occurrence de mon côté. On passe à présent à la finale de conférence nationale. Et alors on parlait de remake, Victor, pour cette finale qui se tiendra donc dans la nuit de dimanche à lundi à 00h30 heure française. On a eu deux confrontations cette saison entre les Los Angeles Rams et les San Francisco 49ers. Je le disais tout à l'heure, l'hégémonie de la NFC West continue dans cette conférence nationale, puisque le vainqueur entre les Rams et les Niners sera le sixième représentant de la NFC au Super Bowl. On a déjà eu deux fois les Seahawks, deux fois les Niners et une fois les Rams au cours de la dernière décennie, je précise. Voilà, sixième représentant en 10 ans. Donc sur Rams-Niners, là aussi sur le papier, les Rams reçoivent ce match. D'ailleurs, ont l'opportunité de s'imposer pour recevoir à leur tour le Super Bowl à domicile. C'est pas négligeable. Première équipe à recevoir la finale de conférence en qualité de numéro 4. Ce qui n'était plus arrivé depuis les Cardinals en 2008. Je sais que tu en as un excellent souvenir.
Ah oui, la finale de conférence Cardinals-Seagulls, j'en garde un souvenir incroyable. Oui, Larry Fitzgerald m'a marqué à vie.
Oui, oui, pareil. Donc en tout cas, pour revenir à ce Rams-Niners, donc les Rams mieux classés, qui ont l'avantage du terrain. Maintenant, est-ce que le favori est vraiment celui qu'on croit? Oui, l'avantage du terrain, oui, tu
relativises un peu. L'avantage du terrain à Los Angeles.
Des échos qu'on a ces dernières heures, oui, il y a une grosse opération du côté de Los Angeles pour faire en sorte que les fans des Niners aient le moins de tickets possible. On avait vu que c'était arrivé avec le Tennessee Cincinnati. Apparemment, c'est une nouvelle mode.
Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont restreint l'achat de tickets à des gens qui habitent dans les comtés de Los Angeles pour éviter les gens des comtés de San Francisco d'acheter des billets. Mais la réalité, je suis désolé, hein. J'y ai passé du temps à Los Angeles. C'est pas une ville de sport. C'est pas une ville de passionnés. À part peut-être les Dodgers, il y a pas vraiment de grosse fanbase. On l'a bien vu, les Lakers, quand ils ont commencé à perdre, en 4 mois, le stade était vide. Pourtant, c'est les Lakers, hein. On parle pas d'une équipe. Et là, pour avoir été au SoFi cette année, c'était Rams Jaguars. Et ben, je te jure que j'ai jamais vu autant de fans des Jaguars de ma vie.
Même à Londres.
Non, mais c'est franchement, même à Londres, il n'y en avait pas autant. Non, mais c'est vrai que Los Angeles, c'est une ville très cosmopolite. Et vous inquiétez pas que des fans des Niners, vu la Legacy Niners des années 80, 90, etc., il y en a un paquet. Surtout que les Rams étaient partis. Hein, donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont choisi les Niners. J'ai peur que le stade soit rouge et que l'avantage à domicile, il soit pas si fort que ça. Et en effet, quand tu dis le favori est peut-être pas celui qu'on pense, bah, le fait est que les 6 derniers matchs ont été remportés par les Niners et que Shanahan prend le dessus sur McVay à chaque fois. Le dernier match a peut-être été le plus intense puisque ça a été un comeback assez extraordinaire des Niners qui gagnent en prolongation pour se qualifier en playoff. Parce qu'on rappelle que s'ils battent pas les Rams, c'est New Orleans qui passe en playoff, si je me rappelle bien. Donc, oui.
Pour compléter ce que tu dis, Shanahan contre McVay, c'est 6-0 pour Shanahan les 3 dernières saisons. C'est, je vais pas me tromper sur les chiffres, c'est 9-3 depuis que les deux ont été respectivement nommés head coach de San Francisco et d'Arras.
C'est ça. Après, pour le coup, les Rams, si on commence par eux en attaque, c'est des Rams très nouveaux parce que l'arrivée de Stafford a complètement changé l'approche offensive de Los Angeles. Et là, on va dire que l'école Washington de l'époque a un peu disparu du côté de Los Angeles. Aujourd'hui, on a un Stafford avec un gros bras et on a quand même Cooper Kupp, Odell Beckham Jr., Van Jefferson, Tyler Higbee. On a une équipe qui, sur le papier, doit faire passer une soirée catastrophique à Mosley et à Thomas. Mais alors, j'avais dit pareil de Davante Adams, et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, là, c'est peut-être un redit un peu du match d'avant, mais normalement, les receveurs des Rams doivent écraser les defensive backs adverses.
Alors, c'est ça. Forcément, on va commencer par le match-up entre l'attaque des Rams et la défense des Niners, parce que c'est respectivement, à mon sens, ces deux escouades-là qui se sont le plus distinguées pour les deux équipes respectives en play-off. On a eu notamment une grosse défense des Niners face à Green Bay et à Dallas. Mais déjà, ce qui est intéressant, et ça rejoint un petit peu ce que tu évoquais avec les receveurs vedettes des Rams, c'est que c'est pas comme si San Francisco découvrait ce genre de scénario. Ils ont affronté Dallas qui avait déjà une escouade de cibles assez fournie. Et Green Bay, même si, voilà, hormis Davante Adams, il n'y a peut-être pas des cibles hyper glamour, il y avait toujours potentiellement la menace qu'Aaron Rodgers puisse, entre guillemets, les découper. Ça s'est clairement pas vu sur les deux matchs. Et on voit que Demeco Ryans, c'est d'ailleurs ce qui lui vaut, le coordinateur défensif des Niners, ce qui lui vaut des entretiens d'embauche aujourd'hui. Il arrive globalement à mettre en place un système avec notamment pas mal de blitz qui met en difficulté les attaques adverses. Et c'est là où ce match-up devient intéressant. C'est-à-dire qu'en effet, ça rééquilibre tout sur le papier, le fait que déjà les Niners ces derniers temps aient l'ascendant sur les Rams. Hein, c'est 31-10 en 10e semaine de saison régulière. Ce qu'on peut dire qu'en 18e semaine, les Rams avaient peut-être un peu moins d'intérêt à gagner la rencontre, en tout cas moins d'intérêt que les Niners. Lors de leur défaite 27-24, il y avait eu une victoire 31-10 pour les Niners en 10e semaine, dans un match où les Niners avaient un bilan négatif. Hein, ils étaient à 3-5 alors que les Rams étaient quand même déjà assez bien embarqués dans la course au play-off. Et d'ailleurs, les stats sont assez dingues parce que les Niners, c'est 3-5 avant ce match, c'est 7-2 après leur victoire en 10e semaine. Et les Rams, pour montrer un petit peu le côté bête noire, c'est 7 victoires sur les 8 dernières semaines. Ils ont commencé à partir du mois de décembre à tout gagner, leur seule défaite. C'est cette défaite en prolongation contre San Francisco. Donc, est-ce que Demeco Ryans et cette défense des Niners ont le numéro, comme on dit aux États-Unis, de l'attaque des Rams, sachant qu'en plus, en face, on a Matthew Stafford qui commet peu d'erreurs depuis le début des playoffs, mais qui s'est fait intercepter 4 fois, je crois, lors de la double confrontation face à San Francisco.
C'est ça, la clé, c'est Matthew Stafford, qui est un super quarterback, mais qui parfois implose. Implose, c'est comme ça. Il a ces matchs à 3 interceptions où tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait. Je pense au match des Vikings aussi, je crois, où il fait n'importe quoi. Bon, ils finissent par regagner ce match, mais oui, clairement, San Francisco, s'ils veulent gagner, la recette elle est claire. Hein. Il faut que le front seven écrase la ligne offensive des Rams. La ligne offensive des Rams, j'avais dit qu'elle n'était pas top 10 de la ligue lors du dernier podcast. C'est faux, en fait. On a revu avec certaines personnes de Twitter tous les analytics. Ils sont en effet bien meilleurs que je pensais. Après, sur certains matchs, je les ai trouvés très empruntés. Et là, il va quand même falloir gérer Bosa, Armstead. Et même en deuxième rideau, il y a un Fred Warner qui sait tout faire. Ouais. Donc, c'est quand même pas évident.
Ils ont l'avantage potentiellement, je te coupe, excuse-moi juste pour la parenthèse, ils auraient l'avantage de récupérer Andrew Whitworth qui leur faisait des fois Tampa Bay.
Normalement, alors d'ailleurs, son remplaçant a été plus qu'honorable. Hein, mais pour le coup, oui, Whitworth est censé revenir. Il y a quand même Allen, il y a quand même Abenstein. Enfin, c'est pas une mauvaise ligne. Mais contenir Bosa, Armstead et compagnie, c'est quand même autre chose. Donc en effet, à un moment, si Stafford n'a pas le temps d'en lancer, ça marchera pas. Il pourra faire une ou deux saisons à Cooper Cup, mais rapidement, Fred Warner, il va dire, attends, les saisons sur Cooper Cup, c'est fini, parce que moi, je m'en occupe. Donc, il va lui falloir du temps, et clairement, la ligne offensive des Rams doit jouer son meilleur match. Parce que, ils sont favoris sur le papier, tout ce qu'on veut, mais sur le terrain, quand ça a compté, ils ont pas forcément eu l'impact, voulu contre les 49ers. Et oui, cette ligne, elle doit faire mieux. Et elle en a les capacités, mais quand même, en face, est-ce qu'on n'a pas le meilleur front seven de la ligue? Ça joue peut-être avec Pittsburgh, mais franchement, et c'est, comme tu as dit, extrêmement bien coaché. Donc, ça va être un vrai duel.
Ouais, très clairement. Et puis, un des points, alors, je ne sais pas si c'est directement le facteur X pour moi, mais forcément, je parlais de Joe Mixon tout à l'heure du côté de Cincinnati. On ne peut pas occulter l'impact que devra avoir le jeu au sol des Rams. Ça n'a pas été transcendant, je trouve, en saison régulière, pendant les deux matchs de playoff, pardon. Sachant qu'en plus, en termes de protection de balles, les Rams pendant la saison régulière, c'était costaud. Je crois que c'est trois fumbles pendant toute la saison régulière. Ils en ont fait 4 rien que le week-end dernier. Donc, face à une équipe des Niners qu'on a provoqué 11 pendant la saison, c'est forcément quelque chose qui devra être surveillé du côté des Rams. déjà pour retirer de la pression des épaules de Matthew Stafford et en plus pour éviter de rendre le ballon trop facilement à une équipe des Niners qu'on a vu hyper opportuniste.
Non, mais dans 95% des matchs, si tu perds 4 ballons sur des fumbles, t'as perdu le match. C'est miraculeux. Bon, après, le scénario était différent. Il était en avance de 20 points, tout ça, OK. Mais c'est miraculeux de faire 4 fumbles et de gagner un match. Ça, clairement, ça doit pas arriver. Moi, je j'ai pas compris. C'est-à-dire que Sonny Mitchell est, j'ai l'impression, dans la meilleure période de sa vie. J'ai trouvé qu'en fin de saison, vraiment, il commençait à monter en puissance. Cam Akers s'y revient d'une très longue blessure. Et pourtant, alors qu'il faisait des fumbles, des courses un peu moyennes, on a continué à insister sur Cam Akers, sur Cam Akers, sur Cam Akers la semaine dernière. J'ai pas compris. Donc, je pense qu'il va falloir diversifier. Mais oui, sur le papier, Akers-Mitchell, c'est pas le duo qui te fait rêver. Mais ça peut avoir une vraie contribution. Après, là encore, il faudra trouver des trous, hein, parce que c'est pas Greenlow et Warner qui vont laisser passer. Donc, est-ce que ils vont demander l'aide, par exemple, d'un Higby et d'un Cooper Kupp, parce que Cooper Kupp, c'est pas un mauvais bloqueur, pour faire des schémas un peu diversifiés, peut-être pour des courses extérieures. Dans ce cas, pour des courses extérieures, moi, j'aurais plus envie d'utiliser Sonny Mitchell que Cam Akers, mais ça, c'est personnel. Encore que les deux peuvent fit, hein, mais du coup, voilà, il va falloir être un peu surprenant, je pense, dans les schémas de jeu. C'est pas, on en rigolait hein, dans la rédac pendant le match, mais la fin de match face aux Buccaneers avec juste lui donne la balle, il va tout droit. Non quoi, c'est pas ça qu'il va falloir. Il va falloir des jeux de course un peu plus innovants.
Oui, surtout qu'il y a moyen de le faire. Enfin, encore une fois, on va pas sans partir déjà sur l'attaque des Niners, même si c'est ce qu'on va aborder juste derrière. Enfin, apporter de la vitesse tout simplement quand tu as des profils par exemple comme Odell Beckham au poste de receveur ou ce genre de choses, c'est pas incompatible avec le fait de vouloir jouer exclusivement sur du running plein centre traditionnel. Ça me fait un peu penser à ce qu'on disait il y a quelques années sur Todd Gurley, ce que tu disais sur Cam Akers. C'est vrai que des fois Sean McVay, quand il a décidé de son plan de jeu et qu'il faut mettre en confiance un joueur coûte que coûte, enfin en tout cas en l'occurrence remettre un joueur en confiance coûte que coûte, ça peut des fois être un petit peu à double tranchant, donc ça va être à surveiller. Je l'ai pas dit en introduction, mais bien entendu, Kyle Shanahan et Sean McVay qui se connaissent très très bien, puisqu'en l'occurrence, ils ont coaché notamment du côté de Washington au milieu des années 2010.
Avec LaFleur aussi.
Début des années 2010, pardon, ouais. Oui, avec Matt LaFleur.
2013, et, je pense.
Dans ces eaux-là, je peux me tromper sur l'année. Et il me semble même que Kyle Shanahan a recruté lui-même Sean McVay. Donc voilà, il y a une grosse relation entre les deux, et ça fait en effet partie de ce grand cercle. Voilà, si on parle là-dessus, Zach Taylor est aussi l'assistant de Sean McVay à Los Angeles il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, cette nouvelle confrérie de coach.
Ah bah il y a un arbre Shanahan.
Ah bah enfin,
Shanahan père. Hein.
Voilà, c'est ça.
Pas Shanahan fils.
Ah bah en tout cas, au fur et à mesure, ça peut de plus en plus être Shanahan fils, hein, parce que là.
Oui, non, mais d'accord, mais on est d'accord que c'est parti. À la base, qui organisait ça à Washington, c'était le père.
On est d'accord. On a fait le tour sur l'attaque des Rams. Est-ce que on passe à l'attaque des 49ers, en l'occurrence?
Allons-y.
Alors, c'est pas celle qui rassure le plus, en l'occurrence. Je pense que des quatre attaques qu'on va voir ce week-end, c'est celle qui interroge peut-être le plus à l'heure actuelle. Maintenant, on joue toujours avec les forces connues du côté de San Francisco et c'est globalement efficace. Je sais pas par quoi tu veux commencer exactement. Est-ce qu'on commence par le jeu au sol ou par Jimmy Garoppolo?
Bah, Jimmy Garoppolo, on va le laisser pour le Factor X, non?
On va le laisser pour le Factor X, si tu veux.
Mais on oui, attend. Vas-y. Le jeu au sol, tu contextualiseras peut-être un peu, mais c'est vrai qu'on a toujours un peu, qu'on le veuille ou non, les schémas des 49ers au sol marchent toujours. Mm-hmm. Schéma très simple, hein, avec des bloqueurs wide et un Juszczyk, je ne sais jamais le prononcer. Juszczyk, je sais plus comment on prononce le fullback, qui est indispensable dans ce schéma. Il y a toujours la possibilité que San Francisco fasse 250 yards au sol. Hein. Ça, je veux dire, dans n'importe quel match, c'est possible et ils ont gagné un nombre innombrable de matchs comme ça. Ils ont
comme Kittle, ça qu'ils avaient gagné la finale de conférence il y a 2 ans contre Green Bay notamment.
Bien sûr, mais ils ont Kittle qui est un excellent bloqueur aussi. Donc, même les Ayuk et Samuel qui sont pas fainéants hein, pour le coup.
C'est aussi ça que je voulais citer dans le backfield offensif, c'est que on voit beaucoup les running backs contribuer. C'est un peu là où je voulais en venir, notamment avec Beckham tout à l'heure, entre autres. Hein, c'est cette faculté notamment qu'a Kyle Shanahan à pouvoir utiliser n'importe quel joueur pour apporter de la vitesse, voire écarter le jeu s'il y a besoin. En effet, Brandon Ayuk, on sait que c'était un des éléments déterminants dans sa draft au premier tour. Il a eu un début de saison un peu compliqué et pourtant il a produit. Je crois qu'il a plus de 800 yards cette saison, ce qui est déjà énorme vu le début de saison un petit peu compliqué qu'il a connu en interne. Et puis Deebo Samuel également qui a un facteur X à lui tout seul, dans le sens où à chaque fois, et j'ai vu cette passer, à chaque fois qu'il a au moins 35 yards à la course sur un match, le bilan des Niners est de 8-1. Donc ça montre également l'intérêt, au-delà d'un Elijah Mitchell qui est très performant cette saison, de l'apport vraiment non négligeable que peuvent avoir les receveurs d'un point de vue réception, mais aussi d'un point de vue tout simplement portée de balle.
Sans faire injure à Elijah Mitchell, hein, qui est très bon, et c'est Jean-Mi qui l'avait très haut à la draft, donc bien joué à lui, mais Samuel, c'est le meilleur receveur et le meilleur coureur de cette équipe. C'est la définition même de l'arme offensive, du playmaker, de tout ce que tu veux. C'est aujourd'hui un phénomène. Si Cooper Kupp n'existait pas, malgré ses blessures, il aurait peut-être fini joueur offensif de l'année. Là, on a vraiment les deux playmakers, en tout cas de la conférence nationale, l'un contre l'autre, parce que c'est vraiment Cooper Kupp et Deebo Samuel, ça peut faire exploser une défense en face. Donc, clairement, il y a des armes. Et puis, j'ai envie de dire, par contre, là où c'était peut-être pas le cas il y a 2 ans quand ils vont au Super Bowl, là où j'ai le plus de questions, hors le quarterback évidemment, mais c'est la ligne. Je la trouve pas aussi impériale qu'elle a pu l'être. Elle reste top 10 encore. Hein.
On parlait de match-up excitant, Trent Williams contre Von Miller, ça peut être quelque chose de...
Ah bah ça, c'est
à l'intérieur, où il va falloir forcément voir si le plan qui va être mis en place pour contenir Aaron Donald.
C'est ça. J'ai pas trop de doutes pour Trent Williams, qui, je pense, est le meilleur tackle de la Ligue et continue à être sous-estimé par beaucoup. J'ai plus de doutes sur le milieu, en effet. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Alex Mack, hein, que tu connais bien, mais il a à peu près 72 ans. Donc, il y a un moment, quand il va falloir défendre Aaron Donald, ça risque d'être compliqué. Je pense que Donald, il a intérêt à se mettre entre Mack et Brunskill et essayer de faire la différence ici. Donc, à voir comment ça se passe, mais là encore, c'est...
Surtout, juste pour apporter une donnée un petit peu chiffrée à ça, c'est que c'est sûr que les Niners éblouissent peut-être un peu plus en défense que les Rams cette saison, mais les Rams, en saison régulière, par exemple, c'est 2 sacks de moins que les Niners. Hein. Donc, il y a une grosse force de frappe, c'est quasiment 100 sacs à eux deux, et les Rams sont juste derrière. Donc, il y a une capacité à mettre de la pression, et c'est pour ça, en l'occurrence, que j'assistais un peu plus sur le Chiefs-Bengals, qui sera peut-être plus à même d'être explosif que l'autre, c'est-à-dire qu'on peut rapidement, en plus dans une confrontation intra-conférence et intra-division, se retrouver un peu sur une guerre de tranchées où les pass rush peuvent avoir le dessus, et c'est pas dit que les Rams aient pas voix au chapitre pour donner la réplique à la défense des Niners. Ouais.
Ben surtout que Von Miller, tu parlais des stats sur la saison, mais Von Miller, bon déjà il arrive en cours de saison, et en plus il est vraiment Von Miller que depuis la semaine 14-15. Il a fallu un peu de temps pour se remettre physiquement, pour s'adapter au schéma et tout. Mais Von Miller, ça peut être une clé en pass rush, mais ça a jamais été un manchot en défense de course non plus. Hein. Quand il faut aller chercher le running back ou enfoncer, il peut le faire. Donc oui, il y a San Francisco. J'ai envie de dire, San Francisco, c'est tout ou rien. Ils peuvent faire un match à 250 yards et 31 points. Et ils peuvent très bien, comme contre les Packers, s'être limités à 7-10 points et rien réussir. C'est vraiment, j'ai envie de dire, si on schématisait presque, San Francisco, c'est le facteur X en tant qu'équipe, quoi. Enfin, l'attaque de San Francisco, en tout cas. Mais c'est vrai que on sait pas sur quel pied danser. On n'a pas envie de mettre de côté non plus la domination qu'a Shanahan sur McVay, parce que c'est important. Mais quand même, quand on regarde sur le papier, on se dit, est-ce que cette attaque des Niners peut suivre l'attaque des Rams? C'est pas sûr.
Ouais, c'est ce qui va être à surveiller, notamment par le biais du quarterback de San Francisco, Jimmy Garoppolo. Alors, c'est toujours la même chose, hein, Jimmy Garoppolo qui a l'opportunité de devenir le deuxième quarterback de l'histoire de San Francisco à remporter la conférence nationale, après un certain Joe Montana. C'est pas toujours arrivé, donc c'est bien de le signaler également. Et stat absolument dingue que j'ai vu passer, Jimmy Garoppolo est le quarterback qui a le plus haut pourcentage de victoires dans l'histoire de la Ligue pour les quarterbacks qui ont joué au moins 50 matchs. Il est cinquième dans l'histoire de la Ligue au niveau de ce ratio-là. Et d'ailleurs, dans ce top 5, il y a 4 joueurs de la Ligue. Autre petite trivia, est-ce que tu les connais ?
4 joueurs qui jouent actuellement.
Non, 4 joueurs qui jouent actuellement, y compris Garoppolo. Donc, du coup, il y a 3 noms à trouver.
Et on parle saison régulière plus play-off.
Saison régulière plus play-off, tout à fait.
Bon, il y a Brady.
Il y a Brady.
Il y a Mahomes.
Je crois que. Ah. Oui, il y a Mahomes. Oui, il y a Mahomes. C'est vrai.
Il y a Rodgers.
Il ne me semble pas l'avoir vu dedans.
Lamar.
Il y a Lamar Jackson, tout à fait.
Donc, j'en ai 4. Il m'en manque un, c'est ça ?
Le dernier qui manque, c'est pas un joueur qui joue encore aujourd'hui, ancien quarterback des Cowboys.
Ekman ?
Non, ça commence à remonter encore un peu. Roger Staubach.
Ah oui, d'accord. Oui, là, ça remonte vraiment pour le coup.
Voilà, j'essaie juste de vérifier mon top 5. Attends, parce que je suis sûr pour Brady, je suis sûr pour Jackson, mais j'ai un doute entre Rodgers et Mahomes. Il me semble que c'est bien Mahomes. Mais donc j'ai
ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas pour le coup.
Non, c'est Mahomes, ouais, c'est ça. C'est Mahomes qui est 1, Brady qui est 2, Staubach est 3, Jackson est 4 et Garoppolo est 5. 71% de victoire sur les 52 matchs qu'il a démarré à la tête de l'attaque des Niners. Donc c'est toujours un petit peu la même chose. Il y a toujours ce côté un petit peu ambivalent où on se dit d'un côté les Niners peuvent gagner malgré lui, mais en attendant, ça reste un bon game manager de ce qu'on en voit parce que c'est clairement pas un joueur qui fait perdre son équipe.
Ouais, alors je regardais ces deux dernières campagnes de playoff quand même. 131 yards, 77 yards, 219 yards, 172 yards, 131 yards. Donc on est sur une moyenne autour des 130 yards par match. Bon, on se rappelle évidemment contre Green Bay, de toute façon, il n'avait pas lancé la balle puisque Raheem Mostert faisait le boulot au sol. Mais bon, ça reste quand même, oui, on peut dire qu'il fait pas perdre son équipe, encore que. Il a quand même toujours ces interceptions où tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? L'interception en fin de première mi-temps contre Green Bay ou l'interception dans la red zone en saison régulière et tout, t'as quand même des matchs où tu te dis, mais à quoi il pense, quoi? C'est pas possible, quoi. Donc, je sais pas. Il a 0 touchdown pour 2 interceptions sur les 2 premiers matchs de playoff.
Là aussi, on est dans une espèce de paradoxe où on se dit, les Rams sont supposément favori dans ce match-up, en tout cas j'entends, parce que Stafford a, je crois, c'est 4 touchdowns, 0 interceptions, je crois que sur sa campagne de playoff, alors que Garoppolo, comme tu disais, c'était 0 touchdowns, 2 interceptions.
Et en carrière, c'est 2 touchdowns, 5
interceptions. On est tellement sûr de rien sur cette confrontation qu'en attendant, on peut très bien être bluffé par Garoppolo. Après, encore une fois, c'est pas un quarterback qui est top 5, top 10 de la ligue à son poste. Je te rejoins, peut-être que quand il va être amené à jouer peut-être un peu plus spectaculaire, à essayer de forcer la décision, ça va être un petit peu à double tranchant pour lui. Mais bon, c'est sûr qu'on voit que quand il fait des saisons complètes avec les Niners globalement, ça va souvent assez loin. Donc c'est vrai que c'est un facteur X à part entière, Jimmy Garoppolo, qu'on le veuille ou non.
Ouais, ben, moi je pense que ses stats seraient absolument ignobles s'il n'avait pas des joueurs qui font des gardes après réception, parce qu'il n'a que
oui,
ça.
Oui, sans doute, sans doute.
Mais ouais. En tout cas, il fera pas gagner son équipe. Après, est-ce qu'il la fera pas perdre? Finalement, quand on se rappelle 2019, bon, Minnesota, Green Bay, il y avait pas match. Donc, de toute façon, c'est difficile de faire perdre son équipe. Le Super Bowl, il a un peu fait perdre son équipe quand même. Alors, ça va peut-être être débattable. Enfin, là, ils avaient quand même 14 points d'avance, hein. Bon, bref. Ou 10 points d'avance, je sais plus. Et pour le coup, non, cette année, je trouve que, il a fait le boulot, ok, très bien, mais il va falloir faire plus. Il va falloir un vrai match référence. Je ne dis pas qu'il n'en est pas capable, mais plus les matchs passent, plus les semaines passent, plus je doute de sa capacité à vraiment être un facteur X, quoi. Pour moi, s'ils gagnent, ils doivent gagner par le sol et que par le sol.
Oui, surtout que, encore une fois, là aussi, les Niners s'est souvent vanté les Rams en termes d'opportunisme et de perte de balles. C'est pas l'équipe qui a le plus de turnover, on va dire, durant cette campagne de playoff, mais ils sont à 19 interceptions, je crois, en saison régulière.
Oui, ils provoquent beaucoup de turnover, mais ils en font beaucoup aussi.
Voilà, c'est un peu le souci. Voilà, c'est le côté un peu spectaculaire. Bon, voilà, au moins il y a des actions de chaque côté, mais en tout cas, en défense, ils sont capables de faire des différences. Forcément, on parle de Jalen Ramsey, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent être mis en évidence. Darius Williams, c'est pas une mauvaise saison. On a vu, alors j'ai plus le prénom, je suis désolé, le safety Scott, notamment, qui a fait un très bon match la semaine dernière en interceptant notamment Brady.
Nick Scott.
Nick Scott, merci. Donc voilà, il y a malgré tout beaucoup de joueurs, même si on retient forcément les Van Miller, les Aaron Donald, les Jalen Ramsey ou un degré moins de les Leonard Floyd, il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qui peuvent s'intégrer dans ce collectif et provoquer des pertes de balles importantes. Et c'est là-dessus, en effet, où Jimmy Garoppolo va être à surveiller, même si, encore une fois, paradoxalement, en ayant plus d'interceptions que de touchdowns à chaque fois, les Niners passent. Mais les Niners passent aussi avec une marge qui reste relativement infime.
Et pour moi, ils passent malgré Jimmy Garoppolo et pas grâce à...
C'est aussi le problème. Je pense qu'au-delà de la question de est-ce qu'il gagne avec un Garoppolo qui a plus d'interceptions, c'est est-ce que Garoppolo peut pas éventuellement être dans un bon jour pour faciliter une victoire, voilà, et pour pas provoquer justement une fin de match un petit peu entre guillemets en lancer de pièces, quoi, où ça peut tourner d'un côté ou de l'autre en fonction du scénario, du temps qui reste ou de ce genre de choses, quoi. Donc c'est forcément un élément à prendre en considération. Je l'ai pas dit en début d'émission, les Niners 17e finale de conférence. Donc du coup, ça devient les recordman dans cette catégorie-là, puisqu'ils passent devant les Steelers. Les deux étaient à 16 désormais. On a donc les Niners à 17, les Steelers à 16 et les Pats à 15 pour la précision.
Mais je repense à quand tu me dis Montana et Garoppolo. Tu parles de gagner plusieurs fois la conférence, du coup. Hein. On est d'accord, parce que Steve Young, par exemple, il la gagne.
Non. Oui, de gagner plusieurs fois la conférence.
Plusieurs fois, j'ai pas été clair.
Oui, Steve Young, bien entendu, a gagné la conférence nationale, puisqu'il a gagné le Super Bowl derrière en 94 contre les Chargers.
Il a explosé, Chargers.
Tu fais bien de préciser, en effet. Les équipes spéciales, avantage forcément aux Niners, vu ce qu'on a vu notamment en tour de division.
Ah bon? Alors, monsieur, je trouve qu'on est en train de manquer de respect à une position qui s'appelle le punter.
Hein. Oui. Oui. Alors tu sais, les punters des Rams, je les ai vus d'assez près à un Super Bowl il y a quelques années de ça. Mais c'est vrai que alors, autant les Rams étaient très réputés sur l'équipe spéciale justement il y a quelques saisons de ça, hein, quand Fassel notamment était coach de la position. C'est moins marqué, je trouve, ces dernières années. Et quand on voit ce que font les Niners, le côté clutch de Robbie Gould ou la capacité qu'ils ont notamment à bloquer sur des coups de pied décisifs, que ce soit des punts ou des kicks, c'est forcément un facteur X à part entière.
Ouais, moi je le trouve dur parce que Matt Gay, il est pro bowler. Alors certes, sur le dernier match, il était un peu blessé. Du coup, il n'avait pas la puissance dans la jambe, mais ça reste un joueur très bon. Johnny Ecker, pour moi, ça reste un des meilleurs punters de la ligue. Et en plus, un mec très sympa.
Ce qui ne gâche pas rien.
Pour le coup, pour l'avoir vu de très près. Oui, alors c'est vrai que Robbie Gould, c'est un peu assurance-touriste. Mais par contre, Wisnowski, si je prononce bien, j'espère, moi, il me fait peur. Hein. Moi, je suis désolé, mais je n'ai pas confiance du tout dans le joueur. Alors je comprends ton point. C'est vrai que si on parle de bloquer, d'être incisif sur les field goals, les punts, peut-être qu'il y a un petit avantage Niners, mais pour le coup, le punter me fait peur. Et mine de rien, San Francisco, ils vont avoir à punter malgré tout. Donc il va falloir gagner des yards et j'ai pas une confiance extraordinaire pour le coup. Non, je donnerai avantage aux Rams. Tu vois, on va pas être d'accord sur ce.
Très bien. Bah, écoute, c'est un droit légitime. Bah, justement, donne-nous un petit peu ton pronostic de ce Rams Niners, beaucoup plus indécis à mon sens que le Kansas City Cincinnati, en tout cas qui nous dit peut-être un peu plus. Est-ce que irais plutôt vers Los Angeles ou vers le San Francisco?
Alors, je vais jouer San Francisco pour des raisons tactiques.
Ah puisque...
Bah oui, j'ai 4 points de retard sur Raphaël et les matchs coûtent 2 points, monsieur Richard.
Ouais.
Mais pour le coup. Pour le coup, je pense que j'aurais misé San Francisco quand même, dans le sens où je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la mystique des coachs et des avantages d'un coach sur un autre. Et pour le coup, je crois qu'il y a un moment, il faut accepter qu'il y a des choses immuables sur Terre et Shanahan a le numéro de Sean McVay. Et j'ai envie d'y croire. C'est vraiment le même match que contre Green Bay il y a 2 ans. 250 yards au sol, 60 yards à la passe. Et il gagne un match comme ça. Après, personnellement, allez, je me mouille, hein, personnellement, je préférais que ce soit les Rams, parce que j'aime beaucoup les Rams, j'aime beaucoup Aaron Donald, et sur un plan personnel, ça me ferait très plaisir que les Rams soient au Super Bowl. Mais je sais pas, j'arrive pas à y croire, je suis bloqué, je me dis, les 49ers vont trouver un moyen de gagner.
Bah écoute, moi je suis moins à la stratégie, hein, j'ai moins de trucs à jouer encore que.
Si tu joues à la dernière place.
Oui, je joue à la dernière place. Mais j'ai pris un petit peu de distance malgré tout.
Bah, t'as 4 points d'avance, donc il faut que t'en aies un des deux qui soit bon et tu seras
pas
derrière.
C'est pour ça. Non, bah écoute, moi je me dis justement, je suis d'accord avec toi sur le côté, en effet, mystique, le côté les coachs qui ont l'ascendant, et on sait que Shanahan, généralement, quand il a le dessus sur un coach. Enfin, en tout cas, quand il veut vraiment faire la différence, il fait vraiment un game plan bien, bien spécifique. Enfin, en tout cas, vraiment décisif la majeure partie du temps. Maintenant, à l'inverse, tu vois, c'est des choses qui sont souvent contrecarrées. J'ai pas tous les exemples en tête, mais tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait l'année dernière sur les Buccaneers qui n'arrivaient jamais à battre.
Buccaneers Saints. Ouais, je suis d'accord.
Et qui en playoff derrière arrivent. Quand tu perds deux fois en saison régulière contre une équipe, tu peux avoir quand même ce surplus de motivation où tu te dis, attends, on est censé être champion de division. On est censé être une équipe vraiment en mission parce que voilà, on n'oublie pas qu'on a fait venir tous ces vétérans du côté de Los Angeles pour aller chercher un titre. Et on va perdre trois fois contre les Niners qui étaient classés numéro 6, hein, et ils ont absolument pas volé la place en playoff, c'est pas mon propos. Mais en tout cas, ça peut être perçu comme la chose de se dire, attends, les Niners se sont qualifiés sur la dernière journée en saison régulière et on va perdre trois fois contre eux, dont la dernière fois, pour un ticket au Super Bowl qu'on peut potentiellement jouer à la maison. Ça me paraît quand même, au-delà du public, il y a une question de logistique qui est quand même intéressante pour Los Angeles de jouer le Super Bowl à la maison. Donc, très franchement, je ne serais absolument pas surpris que les Niners s'imposent de par tout ce qu'on a évoqué et ne serait-ce que de par l'aspect défensif de pouvoir faire déjouer notamment Matthew Stafford. Je pense que ce n'est pas quelque chose... ils l'ont déjà fait cette saison et ils peuvent largement le refaire à mon sens. Mais... je me dis que les Rams ont peut-être un peu plus d'arguments sur toutes les phases de jeu pour pouvoir éventuellement aller s'imposer. Et je pense que ça peut là aussi jouer un field goal d'écart, très clairement. C'est aussi pour ça que c'est important de parler des équipes spéciales. Mais j'irai vers les Rams de mon côté. Donc voilà. Ça aurait pu me donner un Super Bowl 100% Missouri, sans suivre ma logique, et si les Rams n'avaient pas déménagé. C'est bien, bien triste.
Ah oui, non, mais d'accord. Mais ça fait beaucoup de si, quand même. Bah, au moins, ils auraient un vrai avantage à domicile s'ils n'avaient pas déménagé.
C'est ça. Bon, on a fait le tour, en tout cas, sur ces finales de conférence. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire globalement sur cette longue émission preview du podcast Touchdown Actu. Merci en tout cas Victor d'avoir été en ma compagnie. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, je rappelle donc Victor Roulier sur Twitter, Yellow Radio ça, pour moi-même, TD Actu également, pour nous suivre sur les réseaux. Je crois que Victor suit ça d'assez près d'ailleurs. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Passez en tout cas un très bon week-end de finale de conférence et n'oubliez pas la preview également draft. On va parler de tight end également. Je crois que Victor et moi serons un peu concernés également. Merci Victor, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.
Merci Grégory, merci à tous.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vote.